Alors, je m'appelle Volodia, j'ai 31 ans, et il y a 10 ans, j'ai traversé l'Alaska en canoë. Je suis parti de la frontière canadienne, donc tout à l'est, jusqu'à la mer de Bering, à l'extrême ouest. Je suis parti seul, j'ai navigué sur la rivière Tanana et le fleuve Yukon, et c'est une expédition qui a duré 3 mois pour environ 2000 km.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Volodia raconte l'Alaska. Avec lui, on a parlé de canoë, d'ours et de pâte au ketchup.
J'ai bourlingué à travers le monde. À l'origine, j'étais pas particulièrement porté sur les voyages en canoë, même les grandes aventures. Et puis quand j'avais 17 ans, j'ai lu un bouquin qui s'appelait Sibéria de Philippe Sauve. L'auteur, dans ce bouquin, il racontait une traversée de la Sibérie en canoë. Il est parti seul, du lac Baïkal à l'Arctique, pendant 3 800 km. Il a navigué avec un vieux canoë tout pourri, il parlait trois mots de russe, et il en a tiré un récit, mais absolument formidable. Plein de sincérité, plein d'émotions, et quand on lit ça à l'âge de 17 ans, enfin moi, ça a été vraiment ma révélation. Je me suis dit, bah voilà, je veux ça, je veux faire pareil. Alors mon choix, il s'est pas porté sur la Sibérie, mais sur l'Alaska. Pourquoi? Parce que c'est une terre du Grand Nord qui collectionne tous les mythes. Géographiquement, c'est 3 fois la France, c'est 3 millions de lacs, c'est 3 000 cours d'eau, et c'est surtout relié à une espèce d'imaginaire collectif. On a la ruée vers l'or, on a les récits de Jack London, on a plus récemment Into the Wild même. Mais c'est pas, mais alors pas du tout conforme à la réalité, à ce qu'on vit là-bas sur le terrain. Et c'est ce que je vais vous raconter. Déjà, l'Alaska, c'est quoi? Son surnom, plus ou moins officiel, c'est la dernière frontière. Et c'est vraiment un surnom particulièrement bien trouvé, puisque c'est une frontière géographique, d'abord. C'est des forêts, c'est des lacs, c'est des montagnes. La densité des forêts est immense, elles sont quasiment impénétrables. Au bord des rivières, il y a des marécages sans fin, il y a une faune hostile, hein. Il y a des ours, c'est très important. Et puis c'est une frontière humaine aussi. On a quelques villes importantes, mais 10, 15, 20 000 habitants sur la côte sud. Et puis sinon, on a des villages plus modestes qui sont le long du fleuve. C'est des villages avec une forte population d'Amérindiens, d'Inuits, et qui sont marqués par des problèmes sociaux terribles, de l'alcoolisme, des suicides, des morts dans la rivière, dans la nature, une espèce de violence qui témoigne vraiment d'un monde en déclin. C'est très très marquant quand on voyage dans ces endroits-là. Alors, bon, pour traverser l'Alaska, le canoë était un moyen particulièrement efficace, puisque l'avantage du canoë, c'est qu'on peut parcourir de grandes étendues, sauvages, isolées, déjà sans se poser la question de l'itinéraire. On prend une rivière, le courant coule dans un sens, on est sûr d'arriver au bout. Bien sûr, des fois c'est dangereux, c'est technique, mais si on a un certain sens de l'eau, ça passe. Enfin, c'est vraiment un moyen exceptionnel. Ensuite, bah, en canoë, on emporte beaucoup, beaucoup de vivres. Et ça nous permet une autonomie très importante que bah, on ne pourrait pas avoir en voyageant à pied, par exemple. Voilà, une fois que j'avais le canoë, j'avais la zone géographique, il me restait l'itinéraire. Pour ça, j'ai regardé sur Google Earth, et j'ai vu que une rivière, la Tanana, qui partait de la frontière canadienne, se jetait dans un fleuve, le Yukon, qui est un fleuve mythique, majestueux, immense, qui coule des montagnes du Canada, et le tout faisait une traversée ininterrompue est-ouest. Voilà, c'était parti. Alors, en réalité, dès qu'on pose le pied en Alaska, on sait tout de suite qu'on est dans un autre monde. Pour moi, ça a commencé à l'aéroport, avec le douanier, qui contrôle mes passeports, comme tout douanier américain. Et puis, il me dit « Ah, qu'est-ce que vous allez faire ?» Je lui dis « Bah voilà, je compte traverser l'Alaska en canoë. » Et à mon grand étonnement, il dit « Ah, c'est un super projet, vous allez vous éclater, c'est vraiment génial. » Ok. Puis, je profite de cet élan un peu de sympathie pour lui dire « Bon, voilà, moi, mais j'ai quand même une question, un truc qui pose problème, c'est les ours. Parce que je serai toujours confronté à ça le soir, et c'est dangereux. » Il me dit « Ouais, vous avez raison. » Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller au supermarché, voir si vous pouvez acheter une arme, vous serez beaucoup plus tranquille. Voilà, le douanier qui pouvait me suspecter d'être un terroriste avant, puisqu'il savait pas, 2 minutes après, il me conseille d'aller acheter un fusil. On est dans un autre monde, quoi. Pareil, à l'aéroport, à l'entrée de l'aéroport, il y a un immense ours empaillé, debout sur ses pattes arrière, et on prend tout de suite toute la mesure, ou même la démesure de ce que c'est, quoi. La puissance, le côté sauvage du lieu. Devant l'aéroport, il y a un grand bassin, avec des dizaines d'hydravions qui sont prêts à rallier, en fait, toute l'Alaska, c'est les taxis de brousse locaux, quoi. C'est tellement perdu en dehors des quelques villes que l'avion est le seul moyen d'atteindre les coins les plus reculés. Alors, je reste pas longtemps hein, dans la ville d'arrivée qui est Anchorage, et je prends un bus rapidement pour la petite ville de Tok, qui sera le point de départ de cette traversée de l'Alaska. J'ai dans mes bagages
de quoi vivre dans la nature comme on pourrait vivre en haute montagne, c'est-à-dire une tente résistante, très résistante aux éléments, au froid, etc. Un sac de couchage costaud, des vêtements, surtout des vêtements de pluie. J'ai un mois de nourriture, et puis j'ai acheté un fusil quand même, j'ai réussi à en trouver un d'occasion, ce qui m'assurera un bon moyen de défense et au moins une bonne sérénité face au danger. On me dépose au bord de la rivière, c'était un 14 juillet, je me souviens, la fête nationale en France, je le disais là-bas avec une certaine fierté. Et à l'instant où je vois l'eau, cette eau que j'avais vraiment convoitée, j'en avais rêvé depuis des années, la représentation mentale que j'en ai, elle s'effondre en un instant. Parce que la rivière, elle est boueuse, il y a du courant, il y a du vent, il y a du froid. Je sais tout de suite que la partie va être vraiment, vraiment sérieuse. Peut-être plus difficile que ce que j'avais imaginé. Alors je serre la main au type qui m'a déposé, je lui dis au revoir. Devant ma pagaie, 2000 km de rivière, c'est parti. Les premiers jours, ils sont vraiment euphorisants. C'est un bonheur total, malgré la difficulté. Parce que enfin, après en avoir rêvé pendant 3-4 ans, je découvre ce pays. Avec sa géographie si particulière, c'est des immenses forêts qui enserrent la rivière. La rivière qui serpente à travers la plaine dans des méandres vraiment très serrés. Parfois, je vois des élans, des castors, des aigles, et toute cette ambiance magnifique est bercée par le soleil de minuit. C'est sous ces latitudes et à cette saison, on a un jour permanent qui décline très peu, même à 2h du matin. Donc ça fait une ambiance complètement surréaliste. Quoi. Les premiers jours passent tranquillement, et puis, au bout de 100 km, la première difficulté arrive. C'est des rapides qui sont pas forcément très techniques, mais qui sont quand même assez imposants. Et puis surtout, je suis seul, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Je les entends d'abord, avant de les voir. J'aimerais ressangler le matériel sur mon canoë, mais déjà, le courant commence à m'aspirer. Il aspire le canoë, je peux pas lutter. Et puis je les vois, des espèces de rapides bouillonnants comme ça, avec des vagues. Je me mets à genoux sur mon canoë, je pagaie rapidement. Je passe une série de vagues, une deuxième, le canoë il tangue, il gîte. Mais l'obstacle est passé. En une minute, je suis de l'autre côté, tout s'est bien passé, pas de problème, je suis serein. Je monte le bivouac sur un parterre de mousse sous un bois de sapin, et puis voilà, tout va bien. Le lendemain, il y a quand même un détail qui a changé. C'est qu'après ces rapides, la rivière elle a considérablement forci. Déjà, il y avait du courant avant. Là, le courant il a doublé, triplé. Les berges elles sont très abruptes, donc je peux pas accoster. Le courant, on s'en rend pas forcément compte quand on est en canoë, puisqu'on dérive au rythme de la rivière. Mais ça se voit parce que les berges défilent à un rythme vraiment très élevé. Et je regarde dans le ciel et j'entends un bruit de moteur. C'est quand même curieux ça, je suis tout seul, j'entends un bruit de moteur. Je vois un hydravion qui se déroute de son plan de vol et qui commence à me survoler, qui fait des cercles autour de moi comme si j'avais besoin d'assistance. Alors je le regarde plusieurs fois, puis je lui fais un signe de la main, ça veut dire tout va bien, pas besoin d'assistance, il repart. Bon. Mais ça m'étonne quand même quoi. Ok, on est dans un environnement hostile, mais quand même, pourquoi un hydravion est venu, pourquoi il voulait me prêter assistance ? Et puis en fait, je me rends compte, quelques kilomètres après, du danger. C'est-à-dire que la rivière, d'un coup, elle se transforme. Sa morphologie, elle passe d'un chenal unique, comme pourrait être la Seine, le Rhône, nos grands fleuves, à une rivière en tresse. C'est-à-dire que sa largeur, elle double, voire elle triple. La rivière se compose d'une multitude de tresses qui s'entrecroisent sans fin. Le fond est peut-être un peu moins important, il y a 2-3 mètres d'eau, mais surtout, il y a des virages très serrés, un courant qui pousse contre l'extérieur des virages. Quand deux courants se rencontrent, ça fait des tourbillons très forts. Et surtout, le principal danger, c'est le bois mort. Il y a, je sais pas, des dizaines, des centaines de milliers de troncs d'arbres dans la rivière qui parfois obstruent totalement un des bras. Et toute la difficulté, quand on est au niveau de l'eau, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionne le courant, où est le courant principal et où est le bon bras à prendre. Parce que si je prends le mauvais bras, je peux me retrouver face à un barrage de bois mort qui m'aspirerait sous l'eau et là, j'y reste. Donc, c'est assez stressant, ça demande énormément d'attention et je sais que j'ai pas le droit à l'erreur. Mais ça passe, pour l'instant. Un jour, deux jours, bon, ça passe. Et puis un moment, ce qui devait arriver arriva. Je me fais prendre dans un courant trop puissant, j'arrive pas à lutter, et le canoë est poussé contre un trou d'arbre, je me retourne, je tombe à l'eau. Alors heureusement, j'ai un gilet de sauvetage, parce que l'eau est vraiment très froide, sinon j'aurais coulé tout de suite. J'arrive à attraper des branches, des herbes, des racines sur la berge, et à me hisser, enfin, sur le bord. Le canoë, quant à lui, il est bloqué contre un tronc d'arbre, il commence à couler, mais j'arrive à saisir la corde d'amarre et à le hisser sur l'eau. Voilà, je viens d'échapper à un terrible naufrage. J'ai perdu un peu de matériel, mais je suis encore vivant. Et là, je prends conscience que quand même, c'était très dangereux. Et que l'expédition est vraiment monstrueusement dangereuse. Il y a un peu moins d'euphorie qu'au départ. et c'est le cinquième jour, il en reste 85. Donc ça commence très très bien. Le lendemain, eh ben, il faut repartir en fait. Il faut continuer à affronter cette rivière, à ses obstacles. Il pleut terriblement, il fait froid, le moral est au plus bas, et je cherche sur la berge un signe, une présence qui pourrait me redonner espoir. Et d'un coup de chance absolue, je tombe sur une cabane. Une cabane et de la fumée sort de la cheminée. Alors là, j'accoste, à côté d'une barque puissamment motorisée, je débarque, je monte sur la berge, j'ouvre la cabane, et là, je vois quatre Indiens, des Amérindiens, assis autour d'un poêle, la chaleur est suffocante, ils me fixent, je les regarde, ils me regardent, je les regarde. C'est un espèce de huis clos, on sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Et puis je leur explique mon histoire, au début ils me croient pas, puis je leur re-raconte. Et là, ils déduisent que je suis l'homme le plus taré qu'ils connaissent. Mais ils m'invitent à me réchauffer, ils m'hébergent. Et on va passer 3 jours ensemble. C'est 3 jours où, finalement, ils me font découvrir un peu de leur vie. Alors, les journées sont bien occupées par l'alcool. Ils boivent beaucoup. On boit beaucoup tous ensemble. Et en fait, plus notre taux d'alcool monte, plus les discussions deviennent profondes. Alors, des fois, je dis yes à leur monologue, mais je comprends absolument rien à ce qu'ils disent. Mais à un moment, un des types qui est vraiment très alcoolisé, il se met à, je sais pas, 30 cm de moi, il me regarde les yeux dans les yeux, et il me dit, il commence un long monologue, il me dit que je suis l'homme le plus chanceux qu'ils connaissent, que je suis l'homme le plus courageux, qu'ils ont perdu des gens dans la rivière, que des membres de sa famille sont morts dans la rivière, dans la nature. C'est vraiment une confrontation intense. Puis il commence à me dire qu'il y a un esprit protecteur qui veille sur moi. Alors je me dis, ça y est, ils mouvent leur culture, tu vois, cette culture un peu ancestrale. Et il continue sa phrase en disant, et pour ça, tu dois croire en Jésus-Christ. C'est lui qui te sauvera. Et là, c'est le... je tombe des nues, quoi. D'un coup, le monde occidental revient comme ça, en puissance. Voilà. Il m'enseigne, durant ces 3 jours, un peu la vie sauvage. Il me montre comment découper un élan. Il y en a un qui me conseille d'abattre un ours dès que je le vois avant qu'il me tue. Ils sont vraiment assez radicaux là-dessus. Quelque part, leur monde, il est très éloigné du mien et à la fois très proche. Ils vivent dans un endroit complètement à part. Mais en même temps, ils ont des smartphones, ils sont sur Facebook. Voilà, d'un côté, ils savent chasser, survivre en forêt. Ils me disent qu'ils sont en guerre contre les colons blancs, que c'est leur territoire, que les blancs n'ont pas à leur imposer des lois, mais en même temps, ils ont adopté les coutumes de l'occidental, comme la religion. Par exemple, entre eux, ils parlent leur langue. C'est le Yupik. C'est un parler millénaire, utilisé par les communautés du Grand Nord, et qui a commencé à s'écrire seulement au 19e siècle, à l'arrivée des premiers colons. Et les premières tentatives d'écriture de cette langue, elles ont été menées par des missionnaires, et c'était pour traduire la Bible. De là, l'assimilation commençait, et bah, force est de constater qu'elle a plutôt bien réussi. Pour mon dernier jour chez eux, ils m'emmènent au bord d'un lac, un lac relié à la rivière par un affluent en bateau, et là, enfin, c'est la représentation idéale de l'Alaska. C'est une grande étendue d'eau, calme, clair, pas un brin de vent, des castors, des aigles, un fond de montagne enneigé en altitude, embrasé par un crépuscule sans fin. On discute, on boit, puis d'un coup, en fait, tout le monde se tait. On est juste là, à 4 sur un bateau, à contempler. Il y en a un qui se glisse vers moi et qui me dit, voilà, ça, c'est Alaska. Voilà, et là, je comprends ce que c'est l'Alaska pour eux. C'est pas quelque chose de romancé, c'est leur territoire. C'est quelque chose de beau et tragique à la fois, c'est... La rivière, elle charrie pas seulement des sédiments ou de l'eau, mais aussi des hommes, leur histoire, leur mort. C'est vraiment un moment fondateur dans le voyage. À partir de ce moment-là, je me rends compte que ce que je vais trouver en Alaska est différent de ce que je suis venu chercher. On a une nature sauvage, certes, et c'est ça que je voulais. Mais on a surtout les rencontres qui donnent vraiment une âme à ce voyage. L'Alaska sans les hommes, ça aurait pas ce charme. Parce que c'est finalement grâce aux hommes et aux liens qu'ils ont avec la nature qu'on a cette espèce de mythe collectif autour de l'Alaska. C'est des histoires de solidarité spontanée pour faire face ensemble à un environnement hostile. Et j'en ai eu plein tout au long de mon voyage. Le cours d'eau ici, c'est vraiment une ligne de vie. C'est la seule qui relie les hommes. 500 km après mon départ, j'atteins le dernier pont ferroviaire et routier. Sur les 1500 prochains kilomètres, les hommes, ils sont presque abandonnés à l'immensité, en fait. Il n'y a plus de route, hormis les petites routes qui font le tour du village, mais aucune route ne relie les hommes entre eux. Il y a seulement une petite piste d'atterrissage en terre, un aérodrome, et une barge, un bateau qui fait le transport des marchandises entre les villages. Mais sinon, rien d'autre. C'est une vie vraiment liée au fleuve, quoi. Et ce fleuve que j'emprunte, je commence à le connaître un peu. Mes journées, elles sont peut-être moins enthousiastes qu'au début, elles sont plus routinières. Parfois, je pagaie jusqu'à 11 heures sans sortir du canoë. D'autres fois, je dors dans des cabanes abandonnées, avec des ambiances vraiment glauques, sur les rives. Le soleil de minuit, lui aussi, commence à décliner. La rivière, elle est plus calme, les courbes sont plus larges, il y a moins de tourbillons. Finalement, c'est comme une routine, presque un huis clos, en fait. Puisque quand on est en canoë, on est à quoi 50 cm, 1 mètre au-dessus de l'eau. On campe 10, 20, peut-être 50 mètres à l'écart du fleuve, mais pas plus, en fait. On vit avec le fleuve. On peut avoir un sentiment d'être prisonnier, mais à la fois de vivre presque en symbiose avec le fleuve. On voit l'évolution de ses eaux, de son niveau, la météo, voilà, on ressent beaucoup plus les choses. Alors après 800 km arrive la fin de la rivière Tanana et la confluence avec le fleuve Yukon. Et là aussi, c'est comme un mythe dans le mythe. Le Yukon, donc c'est un fleuve qui fait 3000 km, qui descend des montagnes du Canada, et c'est autour du fleuve et de ses affluents que se sont écrites les grandes pages de la ruée vers l'or. Sur la partie Alaska, il est large parfois de plusieurs kilomètres. Il est très puissant sur l'eau. Les coups de vent peuvent être terribles. Ça m'est arrivé de naviguer au milieu de l'eau. Je vois que la brise se lève, mais bon, j'en fais pas grand cas, c'est pas grave. Et puis d'un coup, comme ça, surgit de nulle part, il y a un vent terrible, le canoë il tangue, l'eau elle commence à moutonner, il y a des vagues, il y a de l'écume. On est sur un fleuve, hein, on n'est pas sur la mer. Les gens, partout, ils me disent qu'il faut s'en méfier, qu'il est dangereux, et c'est vrai, surtout en canoë. On arrive à mi-chemin. Derrière moi, j'ai 1000 km. Devant, j'ai encore 1000 km. Le jour commence à s'éteindre petit à petit. J'aperçois début août les premières étoiles. La nuit arrive. Et bientôt, il y aura les aurores boréales dans le ciel. Plus je vais me rapprocher de l'estuaire, et plus les communautés seront nombreuses. Plus il y a de villages, en fait. La première rencontre que je fais après ce point à mi-parcours, c'est un trappeur qui s'appelle John. C'est peut-être l'un des derniers trappeurs. Alors, il a une motoneige pour aller relever ses pièges, mais chaque hiver, il pose des pièges et il vend ses fourrures de renard, de martre, comme dans l'ancien temps. Il me donne un avertissement pour les prochains villages, c'est de me méfier des gens, parce que l'alcool fait des ravages terribles. Et il me dit vraiment, attention, il n'y a que des bad guys dans les villages. Alors, j'en prends bonne note et je continue en me méfiant à la fois de la nature, mais à la fois des hommes. Je ne sais pas quel est le plus dangereux. Le prochain village, je rencontre un type qui se présente à moi sur la berge. Il me souhaite la bienvenue, il m'emmène faire un tour du village. Je lui dis que j'ai soif, tout de suite il m'emmène au magasin d'alcool, alors que moi je voulais juste un soda au final. Voilà, tout de suite, le réflexe. Il me fait faire le tour de son village, il m'emmène vers la rivière, là où remontent des milliers de saumons pour se reproduire. Il y a des cadavres partout dans la rivière, des cadavres de saumons qui forcément attirent des ours, il y a des empreintes un peu partout. C'est très surprenant. Et la dernière chose qu'il me montre, c'est le cimetière. C'est sur une colline, au-dessus du village. C'est un environnement en fait très paisible, puisque c'est un des seuls points de vue en hauteur qu'on a. On voit tout le Yukon, toutes les centaines de milliers de kilomètres carrés de marécages qui bordent le sud du Yukon. C'est très apaisé. Et il me dit, voilà. Il monte la tombe de ses parents et il me dit, voilà, c'est dans ce village que je suis né et c'est là que je mourrai, quoi. À côté de la tombe, il y a une stèle en hommage à tous les morts dans le fleuve, à tous les naufragés. Et c'est là qu'on voit encore une fois que la vie dans les villages, la vie de ces gens est indissociable de la vie du fleuve. C'est lié et ça le sera toujours, en fait. Plus j'avance et plus je me rends compte que ce fleuve, il fait partie de la vie des gens, mais il est dangereux. Le risque fait partie de la vie des gens. À un moment, je suis en train de préparer mon repas de midi. Il y a du vent, donc je cale mon réchaud contre la berge, contre des racines. Je suis très occupé à m'occuper de la flamme qui faceille sans cesse, qui menace de s'éteindre. Je fais cuire des pâtes. La berge me surplombe d'environ un mètre. Et d'un coup, j'entends un craquement. Je lève la tête. Et en fait, je vois un gros ours noir face à moi. Lui, il avait été attiré par l'odeur des pâtes. Alors que, voilà, je n'y pensais plus du tout, je me sentais en sécurité. Et là, d'un coup, je bondis dans mon canoë, je prends mon fusil, je chambre une cartouche. Bon, l'ours était déjà parti parce qu'il ne m'avait pas vu non plus, donc je ne sais pas qui de nous deux a eu le plus peur, mais en fait, jamais, jamais, il faut se relâcher. Jamais, jamais, jamais. Et après cette rencontre avec l'ours, la conséquence, c'est que j'ai plus jamais mangé chaud le soir. J'osais plus cuisiner à côté du bivouac pour pas attirer les ours, donc je faisais une double ration de pâtes. Le midi, et puis je mangeais des pâtes froides avec du ketchup, c'était absolument immonde, et ça atteint vraiment beaucoup le moral, surtout que les conditions sont vraiment de plus en plus dures, la nuit elle commence à être froide, il y a des coups de vent terribles, il y a de la pluie, parfois je vis 3 jours sous la pluie, non-stop, je pagaie sous la pluie, je mange sous la pluie, je dors sous la pluie, et qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On recommence. La dimension qu'on a au temps est très différente, en fait. On compte même plus en heures, on compte en kilomètres, on compte en points géographiques sur la carte. Plus la saison avance, plus l'hiver arrive. On est aux portes de l'hiver mi-août, déjà, quasiment. Les, les feuilles qui commencent à rougir, les dépressions qui arrivent, donc en fait, ça devient une lutte, de plus en plus. Mais il faut pas oublier que moi, je fais ça de mon plein gré. C'est dur, mais je l'ai choisi, et quelque part, j'aimerais pas être ailleurs, même si c'est dur. Mais qu'est-ce que ça donne pour les gens, les locaux, qui vivent vraiment dans des conditions très dures ? Je suis confronté à une situation particulièrement qui part dans les extrêmes. Pas loin de la fin, j'ai fait 1600 km, et j'arrive au village de Russian Mission. C'est une communauté plutôt importante. Des gens me voient camper sur la plage, ils me regardent et ils me disent bah, « Viens chez nous, on t'héberge ». Bon, très bien. Encore une fois, spontanéité, voilà, générosité, complètement désintéressée. Et j'entre dans leur maison, enfin je suis dans le tiers-monde, quoi. J'ai fait un saut dans le temps, dans l'espace, je sais pas. Leur maison, déjà on entre, il y a un auvent, il y a tout un bordel d'outils, de d'ordures, il y a des souris qui se décomposent dans un bac avec de l'eau. À l'intérieur, il y a des castors, des pots de castors écartelés qui sèchent au mur. Tout est crade. La nuit, il y a une souris qui me court sur les jambes. L'eau potable, c'est un tuyau d'arrosage. Le chauffage, c'est un poêle à bois seulement. Je peux même pas imaginer comment on vit par moins 40, moins 50. C'est pas possible, quoi. Mais voilà, malgré leur existence difficile, ils me disent « Écoute, demain, on part voir de la famille, mais si tu veux, on te laisse la maison. On revient dans quelques jours. Si t'es plus là, bah bonne chance. Sinon, bah à plus. » Alors je reste une semaine dans la maison, et je me familiarise avec le village. C'est quoi un village en Alaska ? Il y a vraiment une grosse différence dans le village entre eux. Des maisons qui peuvent être des taudis sans nom, qui sont quand même le cas de beaucoup de maisons, et les bâtiments publics, parce que l'Alaska est un état très riche. Donc l'école est bien meilleure que n'importe quelle école française. C'est des bâtiments énormes, flambant neufs, limite chaque élève a un iMac. Il y a même un ramassage scolaire, quoi. Enfin, c'est un petit village tout petit, et pourtant il y a des bus, les bus jaunes qu'on voit dans les films et les séries, quoi. Et à côté de ça, bah, c'est le tiers-monde, quoi. On se rend compte que l'Amérique, le pays le plus puissant du monde, a son tiers-monde. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Finalement, je reste une semaine. Les conditions météo sont tellement dégradées que j'arrive pas à repartir. Je peux pas, même, tellement il y a de vent. Les gens reviennent au bout d'une semaine, et ils me disent « Bon, bah, on a ramené de la famille, on va boire un coup. » Ils sortent de leur poche une, deux, trois, quatre, cinq bouteilles de whisky. La bouteille de whisky, dans le village où ils étaient, elle était pas chère. Elle était à $50 seulement, ce qui est quand même très cher. Hein. Dans le village où on est, elle est à $120. C'est-à-dire qu'il y a un tel alcoolisme que les politiques publiques, dans certains villages, interdisent l'alcool, dans d'autres, le rendent à des prix prohibitifs, et dans certains, dans tous les cas, il est cher, mais voilà, on a dû mettre ça en place. Et on commence à boire une bouteille, on rigole, c'est cool. Deux bouteilles, bon, on commence à être un peu par terre. Trois, quatre bouteilles, et là, ça devient n'importe quoi, les gens se battent entre eux, des membres de la même famille hein, avec qui on blaguait, ils commencent à se battre à coups de poing dans la boue, ça pleure, ça... Et là je me dis, au début, voilà, l'alcool c'est rigolo, mais là, on est dans des extrêmes, toujours. Les gens sont extrêmes, la vie est extrême, toujours, toujours, toujours. La fin du périple, elle est marquée par une météo très dure, voilà, beaucoup de vent, mais aussi des moments de grâce, de beauté, quoi, c'est des couchers de soleil fabuleux, le début des aurores boréales qui dansent dans le ciel... de la glace dans les flaques d'eau qui craquent sous mes pas. Il y a vraiment quelque chose de beau. C'est vraiment la beauté côtoie le terrible, presque. J'atteins la fin avec de grandes difficultés, mais je suis vraiment heureux. L'estuaire du Yukon, c'est une zone en fait qui est difficile à discerner, parce qu'elle est très plate, sans courant, quasiment sans marée. On se rend pas compte qu'on arrive. Mais les Inuits, ils sont là, ils me voient, ils me disent félicitations, ils me serrent la main. Ils m'emmènent chasser le phoque au harpon, c'est un grand moment de joie et de partage pour eux. La chasse au phoque, c'est... Voilà, ça fait partie de leur culture, et ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment pas abandonné. Et je finirai sur peut-être la dernière soirée que j'ai passée sur le Yukon. Voilà, on a chassé le phoque. Bon, malheureusement, on n'en a pas eu. On fait un feu de camp sur les rives battues au vent. On ramasse le bois flotté, on fait un gros brasier. Il y a plusieurs générations d'Inuits qui se côtoient. On rigole, on parle, on échange sur notre culture. On mange des pommes de terre cuites au feu. C'est juste le bonheur, quoi. Tout simplement. Rien d'autre. Tout le monde est heureux d'être là. Derrière nous, on voit un renard polaire qui nous épie entre les herbes, qui saute comme ça, qui se méfie, mais je crois qu'il aimerait bien finir nos restes de nourriture. Les dernières braises se consument, le soleil passe derrière l'horizon, et enfin, la parenthèse de cette aventure se referme, pour de bon.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
J'ai voulu raconter ce voyage... D'abord parce que c'est peut-être le voyage le plus marquant que j'ai fait dans ma carrière, entre guillemets, de voyageur. Hein. C'était le plus extrême et c'est fait à 21 ans, c'est-à-dire un âge où je pense on se cherche un peu, on cherche un peu où aller, que faire, et ça a été quelque chose de vraiment fondamental. Pourquoi j'ai voulu le raconter aussi? Parce que c'est grâce à un voyage que j'ai eu envie de voyager finalement. C'est en lisant Siberia, donc, la traversée de la Sibérie en canoë, que ça a été une totale révélation. Et peut-être que si je peux inspirer des gens à faire ça, bah, j'en serais très heureux.
Comment on en vient à 21 ans à se lancer dans un voyage comme ça? Et est-ce que t'avais de l'entraînement avant?
Comment on en vient à 21 ans? Franchement, j'en sais rien. Moi, j'y suis venu parce que j'ai eu un déclic. Il y en a, ils auront un déclic plus tard, d'autres plus tôt. Je pense que l'âge, en fait, ça fait pas grand-chose, même si on m'a dit que j'étais trop jeune et tout. Enfin, ça, on me l'a plutôt dit quand j'étais en France, parce que là-bas, les gens comprenaient, il n'y avait pas besoin de demander pourquoi on faisait ça. Après, est-ce qu'il y a eu un entraînement? Pas du tout. Je savais manier un canoë, à peu près. L'entraînement physique, j'en ai pas fait. Mais il y a quelque chose qui était important, c'était d'avoir un certain sens de l'eau, c'est-à-dire de comprendre le courant, comprendre une rivière. Moi, j'ai grandi au bord de la Loire. Je vais à la pêche depuis que j'ai 4 ans, et en fait, je comprends comment fonctionne l'eau, vraiment. Et ça, ça m'a probablement sauvé la vie.
De manière générale, à quel point tu prépares tes voyages ou tes expéditions, et quelle place tu laisses à l'impro?
Je prépare très peu, en fait. Tu vois, par exemple, pour l'Alaska, j'ai regardé mon itinéraire sur Google Earth, s'il te plaît. On a une vision de la rivière pas détaillée, puis surtout, sur Google Earth, on voit pas le courant. Donc, ça peut être très calme, ou alors monstrueux. Mais je crois que j'aime pas trop préparer, en fait. J'improvise beaucoup. C'est comme ça. Peut-être que, je me rappelle, j'avais discuté avec Philippe Sauve, donc encore le type qui a écrit Siberia, et qui me disait que lui non plus, il préparait pas beaucoup ses voyages. Et finalement, laisser de la place à l'impro, bah c'est laisser de la place au risque, bien sûr, mais on est obligé de s'adapter, et on n'a pas un itinéraire tout fait, quoi. De toute façon, c'est impossible de préparer totalement un voyage comme ça, sachant que c'est pas de l'exploration, mais c'est une expédition, c'est vraiment extrême et ça dure tellement longtemps qu'on peut rien prévoir.
Mis à part des pâtes et du ketchup, qu'est-ce qu'on va toujours trouver avec toi dans ton sac?
Qu'est-ce qu'on va toujours trouver avec moi? Un appareil photo. C'est vraiment un moyen de partage pour moi. Voilà, je vais toujours ramener des photos. En plus, bon, maintenant je suis journaliste, je suis aussi photographe, donc c'est vraiment une passion. Ça a été même quasiment l'objet d'un voyage il y a 4 ans, avec un très bon copain, on a traversé les États-Unis en voiture pour faire des photos. On a fait 10 000 km de route, et on a pu photographier les gens, les paysages, tous les milieux différents, et c'était vraiment une passion qui nous animait, et c'était vraiment un fil directeur qui nous a fait voyager de manière magnifique.
Du coup, tu documentes tes voyages exclusivement par la photo ou par d'autres médiums?
Surtout par la photo, en effet. Surtout par la photo. Après, dans le cas de l'Alaska, le texte aussi. J'ai écrit des récits de voyage. J'aimerais bien tester la vidéo, peut-être, mais ça prend du temps, mais c'est vraiment, ouais, la photo, l'espèce de cliché sur l'instant, voilà. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, ça.
Une fois que t'es de retour au pays, est-ce que tu es atteint du blues post-voyage? Et si c'est le cas, comment tu le soignes?
Alors là, carrément. L'Alaska, par exemple, moi j'étais encore étudiant, je suis parti après ma soutenance de mémoire, je suis rentré alors que les cours avaient repris depuis un mois, j'avais raté les inscriptions, et du coup... Je devais me battre avec des problèmes administratifs après avoir survécu 3 mois en Alaska, et j'ai senti un décalage total, et ça m'a mis dans un profond blues. Et en général, c'est le cas. Sur les autres voyages, même, c'est pas forcément à ce point, mais on voyage, on est bien, chaque jour est une aventure, chaque jour on découvre de nouveau, et puis on retombe dans la routine. En vrai, j'ai du mal à soigner ça, en fait. Je sais pas s'il y a un remède miracle, je pense que c'est juste le temps de se réhabituer, et puis de prévoir d'autres voyages, mais j'en suis atteint, complètement.
Comment tu considères la rencontre en voyage? Est-ce que c'est plus des relations à usage unique ou des relations qui restent? Et est-ce que tu as une rencontre qui t'a particulièrement marqué?
Alors la rencontre en voyage, c'est très important. Quand je regarde, en fait, c'est plutôt à usage unique. Mais peut-être parce que c'est lié au voyage même, quoi. Le voyage, ça dure pas dans le temps. C'est quelque chose d'assez éphémère. Et les rencontres, elles sont généralement très intenses parce qu'on est content de partager et puis... Peut-être que c'est aussi très intense parce qu'on sait qu'on va jamais se revoir, probablement. Donc, finalement, il y a des gens, j'ai gardé contact avec eux, tu vois, par exemple sur Facebook, mais au final, on se parle jamais, quoi. Donc, c'est à usage unique, et je pense qu'en fait, limite, ça doit l'être, quoi, tout le temps. Parce que c'est ce qui fait la beauté du voyage aussi, c'est l'éphémère, tout simplement.
Pour se parler du futur, quels sont tes projets?
En termes de voyage, maintenant, j'aimerais traverser l'Atlantique à la voile. Après les fleuves se jettent dans la mer, donc maintenant, autour de la mer... On est sur l'eau, on est sur les territoires très isolés. J'aimerais bien voir ce que ça fait de plus voir la Terre, en fait, pendant des semaines. Je pense qu'il y a un sentiment vraiment très étrange d'être au milieu de l'océan, dans un milieu, alors là, pour le coup, extrêmement hostile, quoi. Et d'être, de voir sa vie à un bateau de 10 mètres. Ça doit être à la fois stressant et fascinant, donc voilà, j'espère faire ça dans un ou deux ans.
Là, pour le coup, t'es vraiment dans le huis clos, quoi.
Complètement, c'est vraiment ce que j'ai envie d'expérimenter, ouais.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation, c'est à toi.
Alors, je vais dire deux choses, en fait. D'abord, c'est tout bête, mais lancez-vous. Moi, quand je suis parti en Alaska, les gens autour de moi avaient du mal à y croire, j'ai eu des critiques négatives, en me disant « c'est trop dur, t'y arriveras pas », mais en fait, je m'en fichais complètement. Je partais, c'était pas « est-ce que vous pensez que c'est bien ?» c'est « je pars, point ». Et à partir du moment où vous avez dépassé ça, vous réussirez, quoi. Et je me suis rendu compte que le plus dur, en fait, le plus dur, c'est de se lancer, parce qu'une fois qu'on est sur la rivière, ben en fait, notre quotidien, c'est la rivière, quoi. Et on avance forcément, donc lancez-vous. La deuxième chose, c'est un appel aux éditeurs. Je suis en train d'écrire le récit de cette aventure, et j'aimerais en faire un livre. Donc, s'il y a des éditeurs qui sont intéressés, ben, qui n'hésitent pas à me contacter, je serais très heureux de collaborer avec eux.
Merci beaucoup.
Merci.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.